Mauvais.
You ready for this?
Live. Très, 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 très bon.
Live.
C'est pas une blague, là.
En vacances.
Les meilleurs au monde.
Radio X.
Pour ce qui est de la circulation, grande région de Québec, c'est-à-dire Rive-Nord, Rive-Sud, malgré les travaux, malgré les cônes oranges, vous êtes peu nombreux ce matin. C'est les vacances de la construction. Ça paraît, donc les routes, ça se passe très bien ce matin, j'ai rien à dire. Sauf que les fruits de saison, hein, cette semaine chez Métro, les gros raisins rouges ouverts sans pépins sont à seulement 2,44 $ la livre ou 5,38 $ le kilo. C'est vraiment difficile de trouver mieux. On a parlé des nouveaux tarifs que menace Donald Trump d'imposer au Canada tantôt et ce qui était supposé durer quelques jours ou même à peine un mois en Iran perdure encore, même qu'on a l'impression que les frappes s'intensifient. On va en parler avec Jean-François Coiron.
Jeff Caron. Jeff Caron.
Ah, Jean-François Caron, merci d'être là avec nous ce matin.
Bon, ça me fait plaisir.
Donc, je le disais, là, le président en fait de l'Iran semble dire que maintenant, depuis le 9 juillet dernier, les frappes semblent être une guerre totale. Ça s'intensifie beaucoup. Je suis loin d'être un expert du climat au Moyen-Orient, de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Mais ce qui retient l'attention, entre autres, tu voulais qu'on débute en mentionnant que J.D. Vance, le vice-président américain, s'est pointé au podcast de Joe Rogan, puis il a quand même dit des affaires vraiment étonnante concernant Israël et l'Iran, là.
Ouais, ben il a quand même été prudent parce que c'est un bon soldat, mais tu vois clairement qu'il se prépare pour la prochaine présidentielle. Fait que il est encore trop tôt puis trop dangereux de rompre avec Trump parce que ça pourrait se terminer comme l'ancien vice-président de Trump. On se souviendra comment ça s'était terminé en décembre 2020, janvier 2021, oui. Mike Pence. Donc, tu sais, il est très, très, très habile, mais tu vois, il s'est fait poser la question. Il dit, Rogan lui pose la question, il dit, est-ce que c'est vrai que tu étais opposé à l'intervention en Iran? Puis il a dit, écoute, moi, ma job en tant que vice-président, c'est de donner mes meilleurs conseils au président, mais une fois que le président prend sa décision, moi, nonobstant ma position initiale, mon rôle, c'est de défendre le président. Tu sais, il n'a pas répondu à la question, mais il a dit, effectivement, le président a répété que j'avais été la personne dans la salle qui était la plus opposée à l'intervention en Iran. Mais il n'a pas nié ça, là. Donc, tu vois, il ménage la chèvre puis le chou. Il est bon soldat. Il appuie Trump, même si il apparaît extrêmement clair qu'il était opposé à l'intervention dès février dernier. Puis il dit maintenant, le président me demande là, de mettre toute mon énergie pour essayer de trouver un règlement de paix avec l'Iran. Puis je m'y efforce, c'est ma tâche principale. Puis on verra ce que ça va donner. Mais c'est ça, tu vois qu'il y a comme un moment de rupture à l'intérieur du mouvement républicain. Puis ça, je pense que c'est pas nouveau parce que Vance a toujours dit, ça a toujours été le... En fait, celui qui incarne le plus l'esprit Trumpiste du America First, parce que pendant la campagne en 2024, il y a eu cette déclaration célèbre qui est reprise maintenant. Il disait, si vous voulez que vos fils aillent mourir à l'étranger dans des guerres de globalistes, ben votez pour Joe Biden. Puis là, ben...
Pourtant, on vit la même chose, oui.
Ben c'est ça, là, c'est des soldats américains. Il y en a, de mémoire, à peu près une douzaine ou une quinzaine qui ont été tués depuis février dernier par les frappes. Il y en a plus d'une centaine qui auraient été blessés. Tu sais, c'est un peu paradoxal parce qu'il est en train de servir un président qui n'était pas supposé faire ça. Non, mais encore une fois, il est trop tôt pour rompre avec Trump. Il brûlerait ses munitions puis il serait complètement brûlé pour la prochaine présidentielle. Mais c'est une entrevue qui était très intéressante. Là,
oui.
Un truc de trois heures, là, évidemment.
Oui, il y a beaucoup de choses.
C'est toujours très long. Mais ceux qui ont un trois heures là, de route ou un long entraînement au gym, je leur conseille là, d'écouter la totalité de l'entrevue, en tout cas une partie.
Il laissait sous-entendre aussi qu'il y avait beaucoup de pression de la part d'Israël concernant cette guerre-là, puis que ce que j'ai compris de ça, c'est que les négociations étaient moins en vue. On voulait plus la guerre qu'autre chose.
Ben, les Israéliens veulent la guerre.
Ouais.
Parce que Netanyahou, il a besoin de le premier ministre israélien, il a besoin de la guerre pour pouvoir rester en poste, parce que il fait face à des procès, puis s'il est déclaré coupable, il finirait le reste de ses jours en prison. Fait qu'il a besoin de détourner l'opinion publique, puis la meilleure façon de le faire, en fait, c'est de se lancer dans des guerres sans fin. Mais ce que Vance a dit aussi, c'est que il y aurait des lobbyistes, des gens proches du Parti républicain qui auraient eux-mêmes été financés par Israël, qui auraient fait, pas fait pression sur Vance, mais qui auraient commencé une campagne de diffamation à son égard pour dire « Ah, le vice-président, c'est pas un soutien d'Israël. » Donc, puis il y a un article, il y a une couple de jours qui avait été publié, qui révélait qu'effectivement, il y avait des lobbies puissants américains qui étaient financés par Israël pour justement là, livrer ce message-là. Fait que, encore une fois, c'est une manière habile de Vance de dénoncer l'État profond. Parce que une grosse partie du mouvement MAGA, c'est des gens qui sont dans cet esprit-là. Il y a le deep state, des acteurs cachés un peu partout qui tirent les ficelles. Puis tu sais, c'est une grosse masse dans le mouvement MAGA. Puis avec sa déclaration hier, Vance, il donne de la crédibilité à cette thèse-là. Donc ça va lui permettre de rester proche de cette clientèle électorale-là dans le Parti républicain.
C'est ce que j'ai déduit aussi là, en écoutant le podcast. J'ai vraiment eu l'impression, comme tu l'as dit, qu'il prépare lentement mais sûrement une possible campagne présidentielle après le mandat de Trump. Surtout quand on tombe dans Epstein, il se considère lui-même comme un adepte de cette théorie conspirationniste-là. Puis, je sais pas si tu as remarqué à un moment, Rogan, il demande, c'est-tu vrai qu'Epstein était peut-être un agent du Mossad? Il ajoute, c'était peut-être un agent de la CIA, peut-être un agent du Mossad, mais il infirme pas les deux théories. Ça m'a surpris quand même qu'un vice-président en action, habituellement, ce qu'on est censé voir, c'est ben, il évite de répondre à cette question-là ou il dérive, tout simplement. Mais il a comme pas infirmé ces deux théories-là. Ça t'a-tu surpris?
Non, ça m'a pas surpris, parce qu'il veut se maintenir proche des gens qui sont dans le mouvement Deep State.
C'est ce que j'ai conclu aussi, oui.
Mais au début de l'entrevue, il dit quelque chose du genre, il dit là, il y a beaucoup de choses qui sont dites à par rapport à moi, puis là, il y a there's a lot of bullshit about it. Fait que, d'une certaine façon, il est habile, parce que les gens qui croient pas au Deep State, ben, ils vont être satisfaits. Ben, voilà, c'est un type responsable qui est capable de faire la différence entre la vraie information, puis la désinformation, puis les théories du complot. Mais par la même occasion, il donne aux adeptes du Deep State ce qu'ils veulent entendre. Ça, écoute, c'est un politicien qui est extrêmement habile, puis c'est sûr qu'il va se lancer à l'investiture du Parti républicain. Il a lancé un livre là, sur sa relation avec la religion. Encore une fois, un sujet qui va faire plaisir à beaucoup de membres là, du Parti républicain. Mais tu sais, t'écris pas un livre là-dessus juste pour le plaisir d'écrire un livre là-dessus à 2 ans des prochaines présidentielles. C'est clairement un livre qui va lui permettre là, non seulement de faire parler de lui, il va faire des entrevues, il va reprendre un rôle beaucoup plus important pour les prochaines semaines sur la sphère publique, mais ça lui permet de vraiment montrer que je suis un vrai républicain. Et j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été fidèle aux mêmes idées. Puis vous allez voir, au cours des prochains mois, lentement mais sûrement, il va se dissocier toujours un petit peu davantage de Trump. Le mouvement va s'accélérer après novembre au prochain.
Ben c'est ça, c'était ma question, Jean-François. Si jamais les midterms sont catastrophiques pour les républicains, ce serait une belle occasion pour J.D. Vance, justement, de se détacher puis de reprendre le message concernant le Deep State, entre autres, que les citoyens américains semblaient vouloir enrayer.
Oui, puis tu sais, il a aussi dit par rapport à l'affaire Epstein, ils disent on s'est planté. Ils disent on a merdé. Là.
Ouais.
Il était donc très critique par rapport à l'administration Trump. Ce qui me laisse penser que si les républicains subissent une grosse défaite au prochain midterms, ils pourraient faire une sortie similaire pour dire on a manqué notre première moitié de mandat. Puis là, il faut qu'on fasse mieux. Un truc comme ça, là, tu sais, qui va le placer comme étant quelqu'un qui a des idées, qui veut changer les choses, mais qui va aussi montrer aux Américains qu'il n'a pas peur d'admettre que des fautes ont été commises. Puis tu sais, Trump aussi, inévitablement, sa cote de popularité diminue au, cours des dernières semaines, elle avait chuté entre 35 et 40 %, ce qui est quand même pour lui un creux historique, puis je serais extrêmement surpris. C'est, ça va devenir un lame duck, là, au cours des, après novembre, après le mois de novembre, ouais. Après les midterms. Donc, rester associé à Trump, à moins d'avoir des ambitions entrepreneuriales dans le monde des affaires, après le mois de novembre, sur le plan politique, ça va être de moins en moins rentable. Puis c'est sûr que sa popularité va continuer à décliner jusqu'à la fin de son mandat. Là.
Justement, parlant des midterms qui s'en vient, penses-tu qu'on va assister à l'élection de plus en plus de candidats démocrates d'extrême gauche? Il y a vraiment une mouvance, le socialisme dur, communisme là, à certains égards, aux prochaines élections?
C'est difficile à dire parce que... Écoute, j'en ai aucune idée. C'est une bonne question. Va falloir voir. C'est sûr que, tu sais, les anciens républicains old school à la John McCain, ils ont complètement disparu du parti. Ils ont été battus lors des investitures au profit de candidats pro-Trump plus MAGA. Est-ce qu'on va voir la même chose apparaître du côté des démocrates? Tu sais, les démocrates sont à un point tournant, je pense, dans leur histoire parce qu'ils auraient la possibilité, s'ils voulaient, de dire, écoutez, nous allons nous rapprocher à nouveau des travailleurs, être le parti politique de la classe moyenne. S'ils faisaient ça, ils maximiseraient énormément leurs chances de remporter la présidentielle dans 2 ans et demi. Mais le mouvement dans lequel ils semblent imbriqués, c'est se déplacer à l'extrême gauche puis de valoriser des candidats qui sont dans le wokisme, qui sont sensibles au lobby pro-palestinien. Donc, je dirais que malheureusement pour les démocrates, ils font pas le bon choix stratégique parce que dans un système bipartisan comme aux États-Unis ou comme au Canada, la solution gagnante, c'est le middle ground.
Exact.
C'est une position centriste où on essaie de ménager la chèvre et le chou, de parler aux bourgeois, aux entrepreneurs, mais aussi de parler aux travailleurs. Ça a toujours été comme ça, le secret du succès lors des élections présidentielles américaines. Puis les démocrates, tu sais, peut-être que l'intermède Trump aura été simplement un intermède et que le système électoral puis la façon de remporter une élection, c'est pas réellement brisé. Donc, un parti aurait peut-être davantage intérêt à se recentrer.
À parler au monde, là, Jean-François, c'est ça, à rejoindre les gens.
Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, à quelque part, les démocrates, tu sais, il y a 50 ans, tous les États qui ont voté du nord américain, Minnesota, Wisconsin, Michigan, qui ont voté pour Trump là, au dernier présidentiel, c'était pas des États qui, normalement, auraient dû voter pour le Parti républicain parce que c'est les États des travailleurs, des industries automobiles. Ça a toujours été des États qui ont toujours voté pour le Parti démocrate. Puis là, soudainement, ils se mettent à voter pour les républicains. Tu sais, moi, je suis un démocrate, là, je m'assirais 15 minutes puis je me posais la question. Pourquoi est-ce que notre électorat historique nous a fait défaut il y a un an et demi? Même chose en France. T'sais, les gens du Parti communiste, le Nord-Pas-de-Calais, où Marine Le Pen est députée à l'Assemblée nationale, cette région-là, maintenant, vote pour le Rassemblement national. Ouais. Alors que 50 ans, les gens de cette région-là votaient minimalement pour le Parti socialiste, puis parfois pour le Parti communiste.
Mais on dirait que les démocrates de là 25 ans sont devenus les républicains aujourd'hui. J'écoutais Bill Maher dire que là, j'ai toujours voté démocrate, mais maintenant, je pense à voter républicain parce que le paradigme a changé de côté.
Ben c'est ça, parce que le Parti démocrate parle plus à des gens comme Bill Maher. Ça parle aux immigrants, aux personnes qui ont des troubles psychologiques, qui s'imaginent qu'il y a 78 000 genres possibles. Toi, t'es un travailleur. Non, mais t'es un travailleur qui a perdu sa job. Puis tu dis, c'est ça que le Parti démocrate me propose.
Déconnexion totale, ben oui.
Des toilettes non genrées. Ouais. Chris, moi, je veux une job, j'ai perdu ma job, je suis pas capable de faire mes paiements, je suis pas capable d'envoyer mes enfants au collège. Puis vous avez de l'autre côté les républicains qui s'opposent aux folies que les démocrates favorisent. Ben, tu sais, le travailleur, il est pas plus con qu'un autre, là. C'est évident qu'il va aller voter pour les républicains. Même chose en Europe. Les partis historiquement socialistes qui ne défendent plus les travailleurs, ne défendent plus les gens ordinaires. Ils sont dans le corporatisme,
dans une sphère,
ethnique, communautariste, dans le wokisme.
Ouais.
Les personnes normales, ils ne s'identifient plus à ces partis-là.
Jean-François, le temps file. Il y a un autre sujet dont tu voulais parler. Puis je te cite. Écoute, tu m'as dit, j'aimerais aussi parler de l'industrie des vieux au Québec.
Ah. Oui. Écoute, j'ai parlé à ma mère qui n'est pas en RPA. C'est une femme qui est autonome, qui vit dans... dans son appartement, mais malheureusement, elle a des amis ou des membres de la famille de son âge qui sont en perte d'autonomie, qui se ramassent dans des RPA. Puis elle me disait, Jean-François, tu peux pas t'imaginer. Elle dit, une de tes tantes, elle a été placée dans... Je vais pas nommer le RPA, évidemment, là, mais elle a été placée dans un endroit à Québec. Et sais-tu combien elle paye par mois?
C'est complètement fou.
Elle paye 6 000 piastres.
Ah! Plus que 5 000.
6 000 piastres par mois, puis elle dit, il y en a une autre. La dernière fois que tu es venu à Québec, tu l'as vu. Elle dit, oui, je me souviens d'elle. Ben elle a un 4,5. Aucun repas d'inclus, ça coûte 3 000 piastres par mois. Et lorsqu'elle veut un repas, c'est 30 piastres le repas.
Ah non, c'est épouvantable, les prix exorbitants qu'on charge.
Le repas, les gars, est-ce qu'on parle de la boîte qu'on voit dans les reportages ou on parle d'un repas digne de ce nom?
Non, parce qu'elle connaît quelqu'un d'autre. Lorsque sa fille, un membre de la famille, l'invite à aller au restaurant, le monsieur dit oui, je rêve d'un club sandwich avec du poulet, avec beaucoup de poulet. Ça vous donne juste une idée à quoi le club sandwich à 35 piastres doit ressembler. Là. C'est 3 tranches de pain avec, c'est probablement une slice de poulet qui goûte à rien, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, je pense que un des plus grands mythes au Québec, je pense que les gens auraient intérêt là, à réaliser que c'est un mythe. Donc, c'est pas vrai. C'est l'idée de la grande solidarité au Québec.
Oui.
Je m'excuse, là. Ça, c'est le plus grand mythe qui existe, là. Tu sais, on le voit très bien avec l'industrie des vieux. Vous avez là, des vieux qui viennent de vendre leur maison, là, tu sais, qui ont payé l'équivalent de 3-4 casseaux de fraises en 1970. Là ils l'ont vendu 750 000 de dollars, là, ou tu sais, 800 000 ou presque 1 million de dollars. Ils ont du cash. Vous avez des gens qui ouvrent là, des maisons comme ça pour les privés, pour les personnes ces personnes-là en perte d'autonomie. Ils savent qu'ils ont du cash. Pensez-vous vraiment que ces gens-là, ils ouvrent des maisons pour les personnes semi-autonomes ou non-autonomes parce que...
Par charité.
De bonne foi, par charité chrétienne. Ben non, parce qu'ils font de la bonne affaire. Ben
oui. En même temps, on voit le prix moyen du 4,5 qui commence à frôler le 2 000 pas mal dans la région de Québec. Fait que c'est sûr que si tu rajoutes des soins relatifs, là, des soins de base ou juste une prise de médicaments le soir... Ça se paye, mais de là à dire 6 000 par mois, c'est outrageux.
T'as des Shylock.
Voyons.
Ben oui, puis l'endroit en question, il y a des personnes qui souffrent d'Alzheimer, puis la tante en question a dit dans le jour, tu sais, il laisse libre, là. Ça se promène dans le stationnement, sur le trottoir.
Ouais, c'est ça.
Ça se demande, tu sais, il se garde
un. Tu veux vraiment des soins, ouais.
Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, à quelque part, puis ça me rappelle un truc, une discussion que j'avais avec Jérôme Blanchet-Gravel il y a quelques années, il me disait. Tu vois mon stationnement, mon entrée, dit, ben oui, elle a rien d'exceptionnel. Elle dit, ben non, c'est une petite entrée. Ben elle dit, j'ai voulu la faire asphalter. J'ai fait venir un contracteur, puis j'ai demandé, ça coûterait combien pour faire asphalter tout ça? Le gars, il me dit, 50 000 piastres.
Hein?
J'ai répondu, ben regarde, on va laisser la garnotte, hein, parce
ben
que,
oui.
Regarde. Tu sais, il a réalisé, t'es en train de me crosser, là. Voyons, 50 000 piastres pour asphalter
une entrée. Ça n'a aucun sens.
Mais il dit, tu sais, le plombier qui vient chez moi pour déboucher un tuyau qui reste présent pendant 5, 6, 7 minutes, il va me charger 150 piastres, là. Mais l'affaire, c'est que... Puis sa réflexion fait du sens. C'est au Québec, t'as l'impression que tout le monde, c'est là où on est très américain. Si on a la possibilité de faire du cash, là, on va pas s'en priver, quitte à crosser le monde.
Ah, ben oui, mais ça...
Mais tu sais, au final, t'acceptes de payer 50 000 $ pour ton asphaltage, 150 $ pour ton plombier ou 250 $ pour ton électricien, parce que toi-même, tu dis, ah, là, c'est toi qui me crosse. Mais quand j'en aurai l'occasion, c'est moi qui va te crosser.
Oui, exactement. C'est l'exemple parfait, puis c'est tout le temps qu'on a après, Jean-François, mais l'exemple que j'avais vu, moi, dans le domaine de l'événementiel, de quelqu'un qui disait, ah, une soumission ça, pour le système de son pour une fin de semaine, c'est 3 000. Ah, c'est pour la municipalité, charge 18.
Ben oui.
Voilà.
Puis, ben, ça, c'est la logique au Québec. Bon, s'il y a de l'argent à faire, quitte à arnaquer les gens. Puis, honnêtement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes âgées, lorsqu'elles réalisent qu'elles doivent payer des 3, 4, 5, 6 000 $ par mois. Puis, moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de ces personnes-là qui se disent je veux laisser un héritage à mes enfants puis à mes petits-enfants. Peut-être que le suicide assisté est peut-être la solution. Parce que, même si j'ai vendu ma maison, 750 000 $ à ce rythme-là, dans 3-4 ans,
c'est épouvantable.
C'est vraiment un système dégueulasse. Puis je pense qu'il faut se départir de ce mythe-là que les Québécois sont solidaires puis ils sont prêts là, à faire acte de charité envers les uns les autres. C'est totalement faux. Puis je pense que dans des situations comme celle-là, on le réalise pleinement. Puis c'est malheureusement super triste.
Merci beaucoup, Jean-François Caron, de nous avoir parlé ce matin. Est-ce que tu prends des vacances ou tu demeures disponible? Comment ça se passe de ton côté?
Je devrais prendre des vacances, mais j'en prendrai pas. Donc, je vais rester disponible.
C'est excellent. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
Merci, bonne journée.
Salut, bye. T'as raison, c'est épouvantable. Tu sais, quand tu vends ta maison, que tu as payé 30 000, tu as vendu 750, c'est bien beau. Mais à 4 5 000, 6 000 par mois, ça va, tu ne seras pas long, là.
Ah, moi, je vais mourir au travail.
Ah oui, hein?
J'arrêterai pas. Moi aussi, la retraite, Camille. Ça disait quoi? 1,2 million la semaine passée. Maintenant, le nouveau taux de fixation pour une
retraite. C'est pas tant que ça, là.
Non, avant, c'était 1 million. Fait que là, tu vois, il y a eu une inflation là-dessus aussi. Moi, je vais mourir au travail. C'est pas vrai que... Non, mais pas vrai.
Ouais, avant, on disait liberté 55. Là, c'est liberté de décès.
Oui, c'est ça.
C'est liberté de travail.
On est là-dedans.
Tu vas te reposer quand tu vas être mort, anyway, Maxime.
Ben, penses-tu t'acheter une maison, toi, éventuellement? Alors, que t'es là, on a à peu près le même âge, là.
Mon chum a encore le désir de redevenir propriétaire. Lui, il en a eu deux maisons. Il s'est séparé.
Il est plus vieux?
Il est plus vieux. On a 10 ans d'écart. Lui, il voudrait redevenir propriétaire. Moi, je me dis, OK, il faut gagner à la loto. Fait qu'on achète des gratteux.
Ben, bonne chance.
On
hein?
espère bien, bien fort.
Je souhaite que ce soit ton tour cette semaine. Au retour de la pause, vu sur X avec Max Lacasse.
Morais.
Petite pause. De retour dans un instant. Radio X.